Cette semaine, à Vidéo Terreur, le cinéma italien, deuxième partie.
Vidéo Terreur est un podcast sur les films d'horreur avec deux passionnés, Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. Cet épisode est produit par la télé du Haut-du-Lac.
Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. On continue aujourd'hui à discuter du cinéma italien avec mon brave ami, parce que je dis brave parce qu'il écoute tous les films d'horreur, lui, il a peur de rien, Jimmy Francoeur. Salut Jimmy.
Salut Pierre, ça va?
Ça va bien, toi? Ah oui, j'aimerais vous rappeler aussi, à vous tous, que Vidéo Terreur est disponible en podcast et vous pouvez même réécouter les deux premières saisons sur le site de la télévision du Haut-du-Lac ou sur tout bon site de podcast. Donc, on s'était laissé, hein, avec après l'épisode 1, on parlait du cinéma italien, avec les genres de cinéma italien. On avait terminé avec le giallo. Là, on va poursuivre avec les films policiers.
Oui, les polizioteschi. En fait, c'est justement, on parlait du polar. Là, en fait, le giallo, c'est un peu le polar italien. Puis, à un moment donné, comme tous les genres, un peu, ils s'essoufflent. On va avoir un essoufflement. Bon, les gens, ça les allume un peu moins.
C'est vraiment c'est difficile de créer toujours de la nouveauté aussi quand tu fais toujours un peu la même chose.
Tout à fait, là. Puis, comme n'importe quelle recette, à un moment donné, elle perd un peu de saveur là, par la répétition. Puis, ce qu'on va appeler aussi le Eurocrime, le film policier italien, c'est vraiment lui qui va reprendre la relève. Puis, en tout cas, moi, c'est un style que j'ai découvert, là, je dirais, il y a une couple d'années. C'est super intéressant, surtout si on a aimé le giallo, parce que c'est les mêmes acteurs souvent qu'on va retrouver. Les réalisateurs vont souvent aussi avoir pris un peu la tangente là, du policier.
C'est quoi parce qu'entre le giallo et le film policier, je veux dire, ben en fait, dans les giallo, c'est jamais la police, là. Est-ce que c'est ça la grande différence?
Ben, entre autres, ben oui, et je te dirais qu'il y a comme peut-être deux, trois éléments là, différents. T'sais, effectivement, comme tu le dis, dans le giallo, la police est complètement inefficace, là. Alors que dans le film, le film policier, les policiers sont vraiment à l'avant-plan. Donc, c'est vraiment un film, je dirais. Avec nos références d'aujourd'hui, c'est un style assez classique, mais là, on revient dans les années 70 quand ça commence. Donc, le policier est vraiment au centre, je dirais, de l'action. Puis, on a beaucoup d'action. T'sais, ce qu'on n'avait pas dans le giallo, là. On est vraiment dans les. Je reste aujourd'hui les clichés, mais avant d'être un cliché, c'en est pas un. Là,
oui.
Fait que, tu sais, les poursuites en auto, c'est comme assez standard, des scènes de fusillade, c'est assez standard. Fait que c'est un style qui est beaucoup plus action que le giallo. On va conserver quand même une certaine violence, mais là, elle va beaucoup plus être une violence par arme à feu. Tu sais, avec le giallo, c'est beaucoup les rasoirs et les couteaux. Là.
Ouais.
Là, on est vraiment plus dans le fusil. Puis, je dirais, tu sais, le giallo, c'est pas un style qui est très critique. On n'a pas vraiment d'éléments politiques. On est vraiment plutôt dans... c'est un divertissement. Dans le polizioteschi, on a vraiment plus, une critique sociale.
Okay.
On a des éléments politiques. Puis il faut se remettre dans le contexte. On est dans la période où il y a une hausse de la criminalité en Italie.
Les années, à peu près?
70-80. Okay. C'est beaucoup, là, je dirais, l'âge d'or. Fait que, on est dans la période où la criminalité augmente en Italie. Il y a comme on a beaucoup de problèmes aussi de corruption. Il y a une perte de confiance les dirigeants. Dans le style, ça va vraiment transparaître. Là. Je te dirais essentiellement, il y a plusieurs types, là, mais on va avoir le policier aux méthodes peu orthodoxes qui est souvent freiné par le système, qui est souvent témoin d'injustice, puis que le système, en fait, c'est le frein à la justice, puis qui va prendre un peu des méthodes, des fois un peu...
un peu à la Dirty Harry.
Mais en fait, ça, c'est intéressant que tu en parles, parce que ce type de cinéma-là va influencer le cinéma américain de ce type-là.
C'était ma question, parce qu'à l'époque aussi aux États-Unis, on a beaucoup, beaucoup de films policiers. Là. Je voulais savoir qui avait le plus influencé l'autre.
C'est toujours difficile, mais je reviens encore à, par exemple, Clint Eastwood, qui va avoir joué dans des westerns italiens. Il y a vraiment un échange, je dirais, d'influence. Puis, on en a produit beaucoup aussi de films policiers là, italiens, fait que, le thème du vigilante, là, du justicier, il est très important dans le film italien. Fait que j'ai tendance à penser que l'influence est en fait beaucoup aussi de là. Il y a un peu ce genre-là en France aussi. Mais fait que, tu sais, il y a une critique aussi vraiment, tu sais, je te dirais, toujours dans le film policier italien, il y a comme en background, en arrière-plan, une critique du système, de la corruption. Je te dirais, il y a comme aussi un thème beaucoup de désabusement. On sent beaucoup une espèce de... tu sais, comme un peu qu'il n'y a rien à faire, que la seule façon, en fait, d'arriver à redresser la situation, c'est d'y aller comme seul contre tous. Fait que c'est des films vraiment intéressants, comme je dis, mais on sent vraiment aussi la lourdeur un peu là, de l'époque là, en Italie, de par les thèmes. Il y a beaucoup de critiques aussi, bon... Je dirais, des fois, on est à la limite propagandiste là, sur la consommation de drogue. Les drogués, tu sais, sont vraiment...
Les drogués sont pas fins.
Ouais, ben, tu sais, t'as ça. Puis, je dirais, à travers ça aussi, on va avoir eu des films un peu de mafia, là, comme...
C'est ma question, je veux dire. Okay. Est-ce que ça existe des films de mafia italienne faits par des Italiens?
Oui. Puis, tu sais, il y en a plusieurs aussi. Je te dirais, tu sais, bon, si on prend le grand comparatif, mettons Le Parrain, où on est, je dirais, dans les hautes sphères de la mafia, là. Les films de mafia italiens sont tendance à être un peu plus, je dirais, au niveau de la rue. Là. Fait que, si on prend, par exemple, des films américains comme Scarface ou Les Affranchis, on était dans une mafia peut-être un peu plus de... Surtout Les Affranchis, là, d'un peu plus de bas étage. Dans le film de mafia italien, on est vraiment là. On est vraiment... souvent, bon, c'est les membres là, un peu là, comme qui sont sur le terrain. Fait que, oui, il y en a des excellents, là, je dirais. Fernando Di Leo, là, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films de ce type-là. Comme par exemple, si on veut voir quelque chose, je pense Calibre 9, là, c'est un bel exemple. Mais oui, il y a du bon film de mafia italien, mais j'aurais tendance à le distancier un peu du film policier, parce que le film de mafia italien, on est plutôt centré au niveau de la dynamique de la mafia. Alors que le film en prend ça plus classique, là, on est vraiment dans le policier qui va la chasse.
Puis on a-tu des acteurs qui vont être marquants? Moi, je pense tout le temps quand on parle à film policier, Peter Falk dans Columbo, c'est un enquêteur. Là, on est peut-être moins dans il y a très peu de violence dans les Columbo, mais il reste que c'est associé au genre. On a-tu des acteurs italiens comme ça?
Ben, tu sais, il y a des visages qu'on revoit périodiquement, mais ça repose moins sur, tu sais, par exemple, aux États-Unis, on va avoir, mettons, Stallone et Schwarzenegger, où on, tu sais, je dirais presque, tu sais, c'est des incontournables. Tu sais, comme je dis, il y a des visages qu'on revoit, mais on est moins là-dedans un peu, ça repose moins sur des acteurs plutôt que... Le style, je dirais, se tient un peu tout seul. Là. Puis, tu sais, on parlait de violence, là, on va aller justement, là, tu sais, c'est le film d'action, mais où on monte le volume aussi toujours. Tu sais, c'est le côté italien, là. Okay.
Après ça, on va passer au film de cannibale, je pense.
Oui.
Hey, ça, c'est tout qu'un genre. On n'en voit plus, les films de cannibale.
Non, ben écoute, Eli Roth en a fait un en 2013, là, Green Inferno, là. Je pense pas qu'il y avait la prétention de vouloir repartir le genre, là. Mais effectivement, tu sais, c'est une période, là, on est vraiment plus dans les années fin 70, des années 80. Puis ça, c'est intéressant aussi, tu sais, le film de Cannibal, bon, ça, on va en reparler dans une émission, en fait, où on va parler plus de Cannibal Holocaust, là. Mais, tu sais, ça part d'un film, en fait, le Mondo Cane, où on fait du documentaire, je dirais, choc. Le but, c'est pas tant d'informer les gens, c'est pas tant de les éduquer. C'est
peur.
Puis de les faire, de les outrer, de les choquer, tu sais. Puis, en fait, bon, il y a deux réalisateurs qu'on va beaucoup associer à ce genre-là, Ruggero Deodato puis Umberto Lenzi, qui d'ailleurs vont se disputer un peu le titre de premier film de cannibale. Ils ont fait à peu près deux films en même temps, là, le Ultimo Mondo Cannibal, puis Man from the Last River. Donc, ces deux réalisateurs-là, comme je dis, vont se disputer un peu le titre de premier cannibale. Mais en fait, Ruggero Deodato va beaucoup, lui, être influencé par le film Mondo Cane, puis toutes les espèces de documentaires chocs qui vont dériver. Quand on parlait, bon, la semaine passée, tu sais, du Filon, on vient encore une fois, le Filon italien, c'est, OK, tu sais, il y a quelque chose qui est intéressant, il y a le documentaire choc, puis on pourrait aussi prendre un peu d'aventure, d'horreur, puis on met ça ensemble, puis là, on arrive au documentaire.
Parce qu'on fait beaucoup passer les films de cannibales comme si ça se passait pour vrai, là.
Tout à fait. C'est un peu ça aussi, là. Ben, l'idée, c'est de donner, tu sais, encore une fois, d'augmenter la mise. Bon, mais clairement, on n'a pas de documentaire avec des cannibales, mais on va faire des films qui donnent l'apparence de. Fait que, tu sais, on est vraiment là-dedans. Puis bon, tu sais, je dirais que c'est un genre aujourd'hui, je pense que ça pourrait pas naître aujourd'hui. Tu sais, c'est le produit d'une époque.
Ouais.
Tu sais, parce que ça a amené aussi, bon, beaucoup de critiques, là. Tu sais, par exemple, bon, on a reproché beaucoup à ces films-là d'avoir, tu sais, un côté, bon, colonialiste, raciste. Il y a eu beaucoup de films d'éléments de violence animale. Par contre, encore une fois, tu sais, je pense qu'il faut faire toujours attention quand on regarde ces films-là à travers nos références. Parce que si on regarde, si on écoute ou on regarde, ben, comment on veut le voir, tu sais, le texte, là, je trouve qu'il y a comme un deuxième niveau. Tu sais, si on regarde, par exemple, bon, Cannibal, Holocaust, Ferox et compagnie, de façon générale, tu sais, on se rend compte que les Blancs sont vraiment des ordures, là. Puis en fait, tu sais, de façon générale, la sympathie va même se déplacer au niveau des cannibales parce que on en vient qu'à les voir un peu comme des victimes
qui se défendent,
tu sais. Puis en fait, même des fois, à certains niveaux, une critique de la modernité, là, où on va dire un peu, même en sous-titre, à un moment donné, on dit quelque chose comme en fait, les vrais sauvages sont pas ceux qu'on pense, là, c'est l'homme blanc. Fait qu'il y a quand même un discours qui est intéressant, tu sais.
Mais il reste qu'on dépeint des sociétés qu'on dit primitives.
Tout à fait.
Avec l'œil occidental.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, encore une fois, je pense pas qu'on écoute, en tout cas, je pense pas qu'on écoute des films de cannibales pour réfléchir sur la condition humaine.
Non. T'as pas tort.
Fait que, tu sais, mais il y a quand même, je dirais, un niveau de sous-texte quand même pas inintéressant, là. Puis après ça, ben en fait, on va se ramasser avec, je dirais, comme encore une fois, tu sais, la belle capacité du cinéma italien à mixer les genres avec des films de cannibales zombies aussi, là, ouais. Comme Dr. Butcher MD, où on va avoir vraiment, tu sais, comme des explorateurs qui vont se rendre en Amazonie puis qui vont tomber sur des cannibales, puis où il y a aussi des zombies à travers ça. Fait que, tu sais, on en arrive à un mélange de genres, je dirais, des fois complètement déjanté, mais... Encore une fois, c'est ça qui va rendre le cinéma italien.
Le zombie
est
cannibale. Hein?
Oui, bien, tu sais, tout à fait. Puis, tu sais, c'est souvent aussi dans ce mélange d'influences-là là, que ça va arriver. Là. Mais fait le film de cannibale, tu sais, encore une fois, ben, on parlait aussi de violence animale. Tu sais, je trouve un peu du coq à l'âne. Ça va avoir été aussi une critique parce qu'on va avoir, par exemple, dans Cannibal Holocaust, là, des scènes de violence animale qui ont été beaucoup, beaucoup reprochées là, au réalisateur Ruggero Deodato. Mais en fait, lui, c'est toujours défendu en disant « Écoutez, moi, j'ai accompagné les gens de la place à la chasse, puis c'est ce qui se passe aussi. » Fait qu'on voit quand même, tu sais, je dirais, la notion de documentaire qui s'infiltre aussi là-dedans. Fait que c'est des films, je vous dirais, là, au niveau de la sensibilité des gens, là, si vous voulez, comme, si vous avez une sensibilité ou minimale ou vous voulez pas être outré, c'est probablement un genre à contourner. Là,
ouais, parce qu'on y va fort. Là. Puis, ouais, c'est ça. Puis, les animaux aujourd'hui, le droit des animaux est différent de ce qui était à une autre époque. Là.
Ben, tout à fait aussi. Là, si on se remet, bon, fin 70, bon, on est plus dans le début des années 80 avec Cannibal Ferox, Cannibal Holocaust. Mais, tu sais, le rapport aux animaux a changé aussi. Là.
Même, là, Apocalypse Now, quand ils abattent le buff, là, mm-hmm. Pour faire référence à l'humain aussi, qui était aussi sauvage que... Écoute, on verrait plus ça dans un film aujourd'hui. Là.
Mais ça, c'est intéressant parce que souvent, ça a été aussi amené, par exemple, bon, on a beaucoup reproché à Cannibal Ferox ces scènes-là, puis à Cannibal Holocaust, ces scènes-là. Mais en même temps, tu sais, il y a toujours aussi une injustice rapport aux grands studios. T'sais, par exemple... Apocalypse Now pouvait se permettre de mettre cette scène-là sans nécessairement être critiqué outre mesure, mais les films, souvent avec un peu moins de budget qui venaient d'ailleurs, étaient peut-être un peu plus la cible de critique, là, justement des censeurs qui étaient pas aussi avec une relation de proximité plus grande avec les grands studios. Là.
Mais c'est vrai, on n'en voit plus. Ben, c'est peut-être une bonne chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté un bon film. Je ne sais pas si j'ai écouté un bon film de cannibale, d'ailleurs.
Ouais, écoute, je dirais
c'est une curiosité tant qu'à moi, là, maintenant. Là.
Oui, ben, c'est quand même des éléments. Il y en a quand même qui sont intéressants, comme je dis, si on les remet dans le contexte. Là. Comme je dis, Eli Roth en a fait un qui nous avait donné Hostel, là, en a fait un en 2013. Quand même à voir, là, je trouvais que c'était intéressant de voir un peu, justement, d'oser aller puiser dans ces influences-là dans les années 2000. Fait que c'est quand même, je pense, un film qui est intéressant. Il a peu eu de succès parce que, encore une fois, là, je pense que les gens sont plus là. Là. Ça a eu son époque. Là.
Anthropophagus,
oui, avec Joe D'Amato.
Ouais.
Ouais, ça se passe sur une île, ça se passe en Grèce, là. Mais ça aussi, écoute, je veux dire...
Je me rappelle encore de la pochette, là. Écoute, ça nous faisait peur. Là.
Il mange ses propres intestins,
ouais,
là.
Ouais, c'est ça.
c'est ça, là. Ben, en même temps, je trouve que c'est une époque où on pouvait se permettre d'oser faire des choses.
Ben, c'est toujours de dépasser dans l'horreur, c'est toujours d'essayer de trouver... C'est ce qui amène, moi, je trouve, des fois aussi une limite au genre. C'est qu'à un moment donné, pour que ça reste crédible, on ne peut pas réinventer nécessairement jusqu'à la fin des temps là, une manière d'avoir peur.
Bien, tu sais, tout à fait. Mais tu sais, en même temps, je dirais, tu sais, on dit, bon, là, tu sais, on est en train de dire ensemble un peu, bon, écoute, des films comme ça, ça n'en fait plus. Mais tu sais, actuellement, il y a encore des films extrêmement intenses. Mais c'est parce que la façon de les diffuser est différente. Revenons à Cannibal Holocaust, mettons. 1980, le canal de diffusion, ben, c'est le cinéma.
Ouais.
T'sais, après ça, bon, tu as eu les clubs vidéo. Puis à partir du moment où ces films-là sont arrivés dans les clubs vidéo aussi, là, on a eu beaucoup de censure. Bon, en Angleterre, ces films-là ont été enlevés pendant des années. Mais maintenant, je veux dire, on peut avoir des films extrêmement, je dirais, violents, mais il y a tellement de capacité de le diffuser. Fait qu'ils vont pas nécessairement. Ils peuvent survivre en étant, par exemple, sur Netflix, Shudder et compagnie,
oui, puis,
sans avoir besoin d'aller au cinéma. Là.
Oui, oui, oui. Ben, en fait, les meilleurs films d'horreur vont pas au cinéma. Là. Ils voyagent à travers les conventions, les sites un peu plus underground.
Oui. Fait que ce qui fait qu'il y a encore, tu sais, on dit ces films-là se feraient pas. Il y a encore des films de ce genre-là qui peuvent se faire, mais c'est que la façon d'y accéder va être différente. Mais on ne les retrouverait pas dans un cinéplex.
Pour faire du pouce là-dessus, on va passer à un autre type de film que je pense qu'on peut plus nécessairement beaucoup voir maintenant. C'est les films d'exploitation.
Oui, ben écoute, ce genre-là. Ouais, ça clairement aussi, là, y en a eu une vague. Là. On a eu des films d'exploitation avec des nonnes dans des couvents. On a eu aussi des films, ce qu'on a appelé les femmes en prison. Je voudrais, tu sais, tout ce qui passerait pas aujourd'hui. Mais il y a eu une vague, encore une fois. Puis encore une fois, on est dans le mélange des genres. T'sais. Comment on peut amener une dose d'érotisme et de violence, puis d'action, puis de tout ce qu'on voudra, d'horreur. On met ça dans le sac, on brasse, puis ça nous a donné un peu cette vague-là. Ça a été quand même une vague, je dirais, quand même importante. On a, qui s'est exportée aussi. Là, on en a même eu au Canada, entre autres, la Tigresse de Sibérie, qui a été tournée à Montréal. Fait que la vague d'exploitation qu'on en a déjà parlé, ça a fait beaucoup de petits. Là. Mais je dirais que là, si on veut terminer en force, on va y aller avec le film de zombies italien. Le film de zombies italien... extrêmement intéressant parce qu'en fait, je dirais, ça part, tu sais, je sais pas si on se rappellera la semaine passée, je parlais de la stratégie de camouflage où les Italiens vont essayer de faire passer des films italiens ou des films américains et vice-versa. Bon. Fait qu'on va partir avec Dawn of the Dead, c'est un film américain réalisé par George Romero, mais quand on dit un film américain, en fait, il faut pas oublier qu'il a été produit par Dario Argento, qui est un Italien. Puis, donc, le film, il est financé par l'Italie, mais c'est un film, appelons ça, avec une équipe là, américaine. Puis Argento s'est gardé aussi les droits de montage pour l'Europe puis pour le Japon.
Oui, parce qu'il y a trois ou quatre versions différentes.
Tout à fait. Puis la version européenne et japonaise, la musique va être changée pour les Goblins. Puis le montage va être un peu plus, je dirais, là, centré sur l'action. Puis même le titre va changer, hein, parce que Dawn of the Dead, en Europe, s'appelle Zombie. Puis là, je parle de ça, en fait, parce que le premier vrai film là, de zombie italien, c'est Lucio Fulci, qui va nous donner Zombie 2.
Ouais.
Puis ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on est vraiment dans la stratégie à plusieurs niveaux. Le Zombie 2, c'est un excellent exemple. Bon, premièrement, on va avoir des scènes qui vont tourner à New York.
Oui.
Pour donner l'impression, encore une fois, qu'on est que c'est un film américain. On va le nommer Zombie 2 pour donner l'impression qu'on est la suite d'un film américain, là, si on peut le voir comme ça. Donc, tu sais, on va encore une fois utiliser à peu près toutes les stratégies de camouflage pour... je dirais, se greffer un peu à Dawn of the Dead pour essayer d'aller, encore une fois, le faire passer. Sauf que ce qui est quand même intéressant, c'est que, bon, dépendamment d'où on regarde nos données, Zombie 2, là, ben, maintenant, on a enlevé le 2 pour l'appeler Zombie, là, parce que je pense que c'est un film qui est capable de se tenir tout seul là, facilement. Il a remporté plus d'argent quand même que Dawn of the Dead au final. Là.
OK.
Fait que je dirais Zombie de Fulci, c'est vraiment le premier film de zombie italien. Par contre, la différence, c'est qu'on est allé beaucoup puiser dans les mythes là, du zombie haïtien. Là. Ouais. D'ailleurs,
zombie vaudou.
Ouais, exactement. Puis c'est là qu'on est, puis le vaudou est plus central. Là. Même d'ailleurs, dans certains pays, là, on va l'appeler vaudou là, plutôt que zombie. Là.
Okay.
Puis. La vague de des films de zombies, en fait, on va en avoir aussi quelques-uns. Là. Bon, il va y avoir Zombie 3 que Fulci va réaliser là, à 80%, là, qui avait été tourné dans les Philippines, mais bon, à cause d'ennuis de santé, il va devoir là, retourner en Italie. Et il va y avoir une bonne vague là, de films de zombies italiens.
On va faire beaucoup de métissage aussi, là, les zombies nazis, les zombies... Non, mais
ouais,
il y a tout ça, là.
Oui, tout à fait. Ben, on vient encore, tu sais, on va mélanger les films d'exploitation, les nazis exploitation avec des films de zombies, puis on se dit, ah, ben, il y a quelque chose à aller chercher, là, on suit le filon, tu sais. Puis, Ensuite, après ça, ben, le film de zombie italien va, faire des petits. Là. On va avoir en France, là, par exemple, bon, Les raisins de la mort là, de Jean Rollin. On va avoir l'extrêmement mauvais La revanche des mortes vivantes. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais non. C'est épouvantable, là. Mais dans le mauvais sens. Mais tu sais, on va avoir, par exemple, aussi des films comme El Noche del Terror Ciego, là, les Blind Dead en Espagne. Fait que tu sais, encore une fois, tu sais, ces influences-là vont se partager, vont se répandre. Puis après ça, je dirais que le flambeau des films de zombies va être récupéré encore aux États-Unis. Puis là, on l'a, je pense qu'on a pressé le citron, là.
Ben oui, parce que tu vois, Romero, c'était intéressant là, les années 70-80. Puis quand on l'a ramené là, avec toute la mode de Robert Kirkman avec Walking Dead, j'ai l'impression qu'on a tué un peu le genre en le surexposant.
Ouais, clairement. Moi, je pense que ça aussi. Là, il va probablement avoir peut-être des trucs là, intéressants quand on va le laisser un peu reposer. Là. Mais tu sais, il y a eu des films quand même géniaux là, comme Shockwave, là, des zombies nazis. Écoute, c'est un film, je pense, qui mérite d'être connu, là, mais je pense que là, les zombies, il y aurait avantage à prendre une petite pause.
Oui, clairement. Pour toi, les réalisateurs les plus importants du cinéma italien, ça serait qui?
Ben, tu sais, je pense que Dario Argento, c'est un incontournable. Lucio Fulci, Ruggero Deodato, qui a fait du film de cannibale, mais il a fait beaucoup de films policiers, il a fait du giallo. Umberto Lenzi, c'est la même chose. C'est un réalisateur qui a touché à beaucoup de choses.
Sergio Leone.
Ou tout à fait. Oh,
on peut pas passer à côté. C'est un des rares que les gens sont capables de nommer, d'ailleurs.
oui, tout à fait, tu sais.
Non, puis y a-tu des acteurs ou des actrices aussi qui ont marqué le genre du cinéma italien?
Ben, il y a Edwin Fenech, mais tu sais, je m'en voudrais d'oublier aussi, on parlait de réalisateur, Mario Bava.
Oui.
Je pense que c'est un des grands là, réalisateurs. On le connaît moins un peu, mais Sergio Martino, qui a fait des giallo extraordinaires. Fait que tu sais, on a eu vraiment des réalisateurs très, très, très solides en Italie.
Oui, puis là, on parle pas de Fellini, puis on parle, tu sais, non, mais là, ça, c'est dans d'autres genres. Oui, mais on reste dans notre...
Même à ça, là, tu sais, je veux dire, techniquement, là, l'Italie, c'est pas un grand pays, là. Il y a eu, tu sais, des réalisateurs extraordinaires, mais je pense que la culture aussi, tu sais, il y a une proximité avec l'art aussi, tu sais, en Italie, c'est valorisé. Fait que ça favorise probablement aussi l'émergence là, d'artistes là, comme ça aussi. Là.
Alors, on en est où avec le cinéma italien en ce moment? Le cinéma d'horreur italien, là?
Ouais, ben ça, c'est intéressant, tu sais. Parce qu'en fait, tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'est un gros joueur, là, jusque dans les années 80, là. Puis, en fait, qu'est-ce qui se produit, en fait, c'est, comme je disais dans une émission précédente, les années 70-80, surtout avec l'avènement du club vidéo, les États-Unis ne sont pas capables de fournir à la demande. Ils produisent pas autant de cinéma qu'ils en ont besoin. Fait qu'on en importe énormément. Puis justement, à partir des fins des années 80, début des années 90, on s'auto-suffit. Là.
Puis comme les Italiens utilisaient beaucoup, un peu, comme tu disais, là, le camouflage, les acteurs américains, c'était plus intéressant d'acheter probablement des films italiens où les gens pouvaient quand même se reconnaître plutôt que des films indiens qui sont des gros producteurs de films,
mais
qui sont dans un univers qui se rapproche pas de ce qui se passe aux États-Unis.
Tout à fait. Oui. Et puis, tu sais, les films italiens étaient faits aussi dans l'optique de toujours de comment on va les exporter. Fait qu'il y avait cette sensibilité-là. Fait que, tu sais, à partir du moment des années 90, le marché américain, encore une fois, devient autonome, plus besoin. Bien évidemment, on va importer moins en moins de films. Puis, honnêtement, je ne sais pas pour quelle raison, mais les années 90, il y a comme un peu comme on est en train de vivre ici, il y a comme un déplacement, un shift là, entre le cinéma vers la télé.
Oui.
Comme je dirais, on est en train de vivre avec les téléséries. Fait que les Italiens commencent à s'intéresser beaucoup plus à la télé. Fait qu'il va y avoir, je dirais, un certain désintérêt là, pour les salles de cinéma. Puis, à partir des années 90 aussi, on va avoir les grands noms commencent à disparaître. Là. Justement, on parlait de grands noms comme Fulci va mourir, Mario Bava est déjà mort, Sergio Martino prend sa retraite. Les gros piliers commencent, je dirais, soit à mourir ou à prendre leur retraite, puis on ne sent pas nécessairement qu'il y a comme une relève assez solide. Fait que, si on mélange un peu comme une relève peut-être un peu moins présente, une espèce de désintérêt pour le cinéma, beaucoup moins d'achats là, pour l'étranger. Fait que l'industrie s'est un peu comme un peu implosée. Là, on est au stade où, écoute, des les films d'horreur italiens, faut les compter, là.
Puis aussi, est-ce que ça se peut que le fait que, tu sais, Hollywood, maintenant, ont des énormes budgets pour faire des films avec des effets spéciaux comme complètement, des fois même farfelus, là. Je trouve, des fois, on perd beaucoup au change, là. Mais c'est difficile pour un petit pays qui a peut-être pas ces grands studios-là ou ces moyens-là d'investir 100 millions sur un film d'horreur, là, quand c'est monnaie courante aux États-Unis.
Ça, je trouve, c'est tellement un bon argument parce que, tu sais, à un moment donné, si on regarde les années 70, t'sais, un film américain puis un film italien, en termes de budget, il y a une différence, là, mais on est quand même capable de compétitionner. Là. Mais effectivement, t'sais, quand on est rendu à mettre 100 millions pour un film, je veux dire, à quelque part, on met les attentes tellement élevées que tout ce qui ne peut pas nécessairement là, à côté, ben, ça devient, t'sais, même sans l'avoir vu, presque un navet, là.
Non, non, mais en général, en plus, ces films-là sont rarement extraordinaires.
Tu sais, puis ça ferme la porte à des genres complets. Là, je veux dire, on peut pas faire de la science-fiction avec un budget de 500 000. Là. Quand ton compétiteur va avoir 500, t'sais, oui, 100 millions. Star Wars, là, ben, c'est ça. Fait que oui, tu sais, ça, c'est une réalité aussi. Je pense que le cinéma américain a comme un peu tué la compétition, ben, pas à l'interne, mais ça a amené aussi un comparatif où les gens vont toujours regarder un film en faisant comme moi, ouais, c'est un peu cheap. Fait que oui, tout ça, ça a fait que l'industrie italienne, en tout cas au niveau de l'horreur actuellement, je dirais que c'est triste, là, mais on sent pas une relève même imminente. Là.
Merci beaucoup, Jimmy. C'était un grand plaisir de parler cinéma italien avec toi. Merci aussi beaucoup à vous d'avoir été là et de nous suivre. La semaine prochaine, on reste en Italie. On va parler de Lucio Fulci. Ça va être intéressant. Soyez des nôtres. Bonne semaine. Bye-bye.
Vidéo Terreur est une réalisation de Jean-François Bourbeau, animée par Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. La captation vidéo et sonore a été réalisée par Cynthia Dufour et Jean-François Bourbeau. Scénarisation et recherche, Jimmy Francoeur. L'ambiance sonore est une création de Jean-François Bourbeau. Coordination, Andréane Bouchard. Pour nous rejoindre, videoterreur@hotmail.com.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Diodilac.